Bonjour chers amis de Radio Espérance qui nous écoutez ce soir. Nous vous proposons tous les jours, à la même heure, de passer ensemble une demi-heure avec les pères du désert, ces ermites de l'Orient qui vécurent essentiellement en Égypte, en Palestine, en Grèce et dans les pays slaves. Nos premiers pères de l'Église, le tronc commun entre l'Église de Byzance et celle de Rome. Voici quelques lettres, quelques homélies qui, comme vous l'entendrez, attestent d'une profonde clairvoyance sur le chemin qui mène l'âme du monde à Dieu. Chemin truffé de démons charnels et spirituels. Mais chemin conduisant la béatitude de la vision divine, pour peu que l'on s'y abandonne en totale humilité à Dieu Tout-Puissant. Nous commençons aujourd'hui avec le premier de ces grands ascètes, Antoine du Désert, qui vécut de 250 à 356, en pleine période de la terrible persécution des chrétiens par Dioclétien en 303.
Quitter peu de choses, la vertu est déjà en notre cœur. Les démons, il suffit de connaître leurs ruses.
De ses familiers vinrent à lui. Il ne leur permettait pas d'entrer. Ils restaient dehors jour et nuit. Ils entendaient alors comme des troupes bruyantes faisant du vacarme et tempêtant à l'intérieur, parlant d'une voix lamentable et criant « Va-t'en de chez nous, qu'as-tu à faire au désert ? Tu ne supporteras pas notre conjuration. » Antoine restait. Les démons ne pouvaient lui faire aucun mal. Il ne se lassait pas de les combattre. Les visions célestes et la faiblesse des ennemis augmentaient son ardeur. Souvent, ceux qu'il avait connus venaient, et croyant le trouver mort, il l'entendait psalmodier. « Que Dieu se lève !» et que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Comme ce disciple a fumé et dissipé, comme la cire se fond au feu, que les méchants disparaissent devant Dieu. Il vécut ainsi près de 20 ans, reclus, menant la vie ascétique, ne sortant pas, ne se montrant pas. À la fin, plusieurs voulurent imiter son ascèse, ses amis vinrent, brisèrent et enfoncèrent sa porte. Antoine sortit, comme initié au mystère, dans le secret du temple, et comme inspiré d'un souffle divin. Alors, pour la première fois, ceux qui venaient le virent. Ils furent dans l'admiration. Son aspect était resté le même, il n'était ni engraissé par le manque d'exercice physique, ni décharné par les jeûnes et la lutte contre les démons, mais tel qu'on l'avait connu avant sa retraite. Spirituellement pur, il n'était ni resserré par le chagrin, ni dilaté par le plaisir. En lui, ni rire, ni tristesse. La multitude ne le troublait pas. Tant de gens qu'il saluait ne lui donnaient pas de joie excessive. Toujours égal à lui-même, gouverné par la raison, naturel. Par lui, le Seigneur guérit plusieurs personnes souffrant dans leur corps et en purifia d'autres des démons. Antoine avait reçu de Dieu la grâce de consoler les affligés, de réconcilier les gens en discorde. Il leur disait de n'estimer chose au monde plus que l'amour du Christ, en exhortant au souvenir des biens futurs et de l'amour à nous témoigné par Dieu, qui n'épargna pas son propre Fils, mais le livra pour nous. Il persuada beaucoup de gens d'embrasser la vie solitaire. Et c'est ainsi que des monastères s'élevèrent dans les montagnes et que le désert se peupla de moines, d'hommes ayant renoncé à tous leurs biens et donné leur nom à la cité des cieux. Pour aller, selon son habitude, visiter ses frères, il dut un jour franchir le canal d'Arsinoé, infesté de crocodiles. Il se contenta de dire une prière et d'entrer dans l'eau avec ses compagnons. Ils traversèrent indemnes. Revenu à sa solitude, il reprenait ses anciens labeurs avec force. Par des entretiens fréquents, il encourageait les moines et détermina plusieurs à le devenir. Il était comme le père de tous ces monastères.
Antoine rassure ses amis et leur dit qu'il n'est de chose plus à estimer dans ce monde que l'amour du Christ.
Ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot, c'est-à-dire ne pas changer d'avis et reprendre goût au monde. La vertu est en nous. Ayant donc ainsi commencé, et marchant déjà dans le chemin de la vertu, luttons davantage afin de parvenir au bien futur. Que personne ne regarde en arrière, comme la femme de Lot, car le Seigneur dit « Quiconque, ayant mis la main à la charrue, regarde en arrière, est inapte au royaume des cieux. » Regarder en arrière n'est rien d'autre que changer d'avis et reprendre goût au monde. Ne craignez pas en entendant de parler de vertu. Ne vous étonnez pas du nom. Elle n'est pas loin de nous, elle ne se forme pas hors de nous. L'œuvre est en nous, elle est facile, pourvu que nous le voulions. Les Grecs voyagent et passent la mer pour étudier les lettres. Nous n'avons pas besoin de voyager pour le royaume des cieux, ni de passer la mer pour la vertu. Nous devançons, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. La vertu n'a donc besoin que de notre bon vouloir, puisqu'elle est en nous et se forme de nous. Si l'âme conserve sa partie intelligente conforme à la nature, la vertu se forme. Elle est selon la nature, quand elle demeure comme elle a été faite, car elle a été faite belle et droite. C'est pourquoi Josué, fils de Noun, disait au peuple en l'exhortant « Dirigez votre cœur vers le Seigneur, Dieu d'Israël. » Et Jean-Baptiste, « Rectifiez vos voies. » Pour l'âme, être droite, c'est avoir l'intelligence selon la nature, comme elle fut créée. Mais lorsqu'elle dévie et se met en distorsion par rapport à la nature, alors on parle de vice de l'âme. La chose n'est donc pas difficile. Si nous demeurons tels que nous avons été faits, nous sommes dans la vertu. Mais si nous méditons des choses mauvaises, nous sommes jugés mauvais. Luttons donc pour que la colère ne nous tyrannise pas, ou que le désir ne nous domine pas. Il est écrit en effet, « La colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. La concupiscence ayant conçu, enfante le péché. Consommé, le péché engendre la mort. » Nous conduisant ainsi, veillons attentivement comme il est écrit. Nous avons des ennemis terribles et pleins de ressources, les mauvais démons. Et c'est contre eux que est notre lutte, comme dit l'apôtre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Nombreuses et leurs troupes dans l'air qui nous entourent, ils ne sont pas loin de nous. Il y a entre eux de grandes différences. De leur nature et de leur distinction, on ferait un long discours. Un tel traité appartient à de plus grands que nous. Ce qui nous est nécessaire et indispensable maintenant, c'est seulement de connaître leur fourberie contre nous. Nous savons d'abord que les démons n'ont pas été créés démons. Dieu n'a rien fait de mauvais. Eux aussi furent créés bons, mais déchus de la sagesse céleste, précipités sur la terre, ils égarèrent les gentils par les fictions. Ils nous portent envie, à nous les chrétiens, et remuent tout pour nous fermer l'accès au ciel, pour que nous ne montions pas là d'où ils sont déchus. C'est pourquoi il faut beaucoup de prières et d'ascèses pour pouvoir, par le charisme du discernement des esprits, connaître ce qui les concerne, lesquels d'entre eux sont moins méchants, lesquels plus méchants, la spécialité de chacun, comment chacun est terrassé et rejeté. Nombreuses sont en effet leurs fourberies et leurs manœuvres insidieuses. Le bienheureux apôtre et ses coopérateurs le savaient bien, ils disaient « Nous n'ignorons pas ces desseins. » L'expérience de leurs tentations doit nous servir pour nous aider les uns les autres à nous mettre sur nos gardes. Ayant d'eux quelque expérience, je vous en parle comme à mes enfants. Les démons, s'ils voient des chrétiens, quels qu'ils soient, mais surtout des moines, travailler et progresser, d'abord, ils les attaquent et les tentent, tendent des pièges sur leur route. Leurs pièges sont les mauvaises pensées. Mais nous ne devons pas craindre leurs suggestions, car par les prières, les jeûnes et la foi au Seigneur, ils tombent vite. Mais tombés, ils ne cessent pas, ils reviennent aussitôt avec fourberie et ruse. Ne pouvant égarer le cœur par le plaisir manifeste et impur, ils attaquent autrement, forment des fictions, tâchent d'effrayer, se métamorphosent et imitent les femmes, les bêtes, les serpents, des grands corps, des troupes de soldats. Il ne faut pas craindre non plus ces fictions. Elles ne sont rien et disparaissent vite si l'on se munit de la foi et du signe de la croix. Ils sont hardis et impudents à l'excès. Vaincus, ils essaient aussitôt d'une autre manière. Ils feignent de prophétiser et de prédire des choses futures. Ils affectent de se montrer si haut qu'ils atteignent le toit et immense en largeur, afin de pouvoir suborner par ces apparitions monstrueuses ceux qu'ils n'ont pu tromper par les pensées. S'ils trouvent une âme affermie dans la foi et l'espérance, alors ils amènent avec eux leur chef.
Renoncer au plaisir éphémère pour le royaume éternel.
Un jour, tous les moines vinrent le voir et le prièrent de leur adresser la parole. Il leur dit en égyptien, « Que notre effort commun soit d'abord de ne pas abandonner ce que nous avons entrepris, de ne pas nous décourager dans le labeur, de ne pas nous dire « Il y a longtemps que dure notre assaise ». Au contraire, comme si nous commencions, augmentons chaque jour notre zèle. Toute la vie de l'homme est bien courte auprès des siècles futurs. Tout notre temps n'est rien auprès de la vie éternelle. Toute chose du monde se vend, s'échange pour sa valeur. Mais la promesse de la vie éternelle s'achète à bon marché. Il est écrit, nos jours s'élèvent à 70 ans et dans leur pleine mesure à 80 ans. Et leur splendeur n'est que peine et misère. Si donc nous avons passé tous nos 80 ans et même nos 100 ans dans la vie ascétique, nous ne régnerons pas seulement 100 ans, mais dans les siècles des siècles. Ayant combattu sur la terre, nous aurons non un héritage terrestre, mais un héritage céleste, et ce corps corruptible déposé, nous en recevrons un incorruptible. Donc mes enfants, ne nous lassons pas. Ne pensons pas que le temps soit long ou que nous fassions chose grande, Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Ne croyons pas, en regardant le monde, que nous avons renoncé à de grandes choses. Toute la terre est bien petite à côté du ciel. Si donc nous possédions la terre entière et y renoncions entièrement, cela ne serait pas digne du royaume des cieux. Comme si l'on méprisait une drachme pour en gagner 100, ainsi le maître de toute la terre, en y renonçant, quitterait peu et recevrait le centuple. Que si toute la terre même n'est pas digne du royaume du ciel, celui qui quitte quelques arpents de terre ne perd pour ainsi dire rien, et s'il quitte sa maison et beaucoup d'or, il n'a pas de motif de se glorifier ou de s'attiédir. D'ailleurs, ce que nous ne quittons pas, la mort nous le prend, et cela tombe souvent aux mains de ceux que nous ne voudrions pas, comme dit l'Ecclésiaste. Pourquoi ne pas le quitter par vertu, pour obtenir l'héritage du royaume ? Que le désir de posséder ne nous envahisse donc pas. Quel gain d'acquérir ce que nous n'emporterons pas. Acquérons donc plutôt ce que nous emporterons. La prudence, la justice, la tempérance, la force, l'intelligence, la charité, l'amour des pauvres, la foi au Christ, la mansuétude, l'hospitalité. Si nous les obtenons, nous les trouverons pour nous recevoir dans la terre des doux. Par ces raisons et d'autres semblables, que chacun se persuade de n'être pas pusillanime, surtout en réfléchissant qu'étant serviteur du Christ, il doit le servir. Un serviteur ne dit pas « j'ai travaillé hier, aujourd'hui je me repose ». Il ne mesure pas le temps passé pour cesser de travailler, mais chaque jour, comme il est écrit dans l'Évangile, il a même zèle au travail, pour plaire à son maître et ne pas se mettre en danger. Nous aussi, persévérons chaque jour dans la vie ascétique. Si nous nous négligeons un seul jour, le Seigneur ne nous pardonnera pas en raison du temps passé, mais s'irritera contre nous pour notre négligence. Ainsi est-il écrit dans Ézéchiel, ainsi Judas, pour une nuit, perdit le labeur du temps écoulé. C'est pourquoi, mes fils, donnons nos soins à la sèse, ne nous relâchons pas, le Seigneur collabore avec nous. Il est écrit, quiconque a choisi le bien, Dieu collabore avec lui au bien. Pour n'être pas pusillanime, il nous est bon de méditer le mot de l'apôtre. Je suis chaque jour exposé à la mort. Si nous vivons comme devant mourir chaque jour, nous ne pécherons pas. Voici comment il faut l'entendre. Chaque jour, en nous levant, pensons que nous ne subsistons pas jusqu'au soir. Et le soir, en nous couchant, pensons que nous ne nous réveillerons pas. Notre vie est par nature incertaine. Chaque jour nous est mesuré par la Providence. Disposés et vivant ainsi, au jour le jour, nous ne pécherons pas, nous n'aurons le désir de rien, nous n'aurons de ressentiment contre personne, nous ne thésauriserons pas sur la terre. Mais nous attendant chaque jour à mourir, nous serons pauvres, nous pardonnerons tout à tous. Si nous ne dominons pas entièrement les désirs de la femme ou d'autres plaisirs impurs, nous nous en détournerons comme des choses caduques. Luttant toujours et ayant en vue le jour du jugement. Car la plus grande crainte et le péril des tourments dissipent la douceur du plaisir et retiennent l'âme fléchissante.